Chapitre 31. Ce jour-là, Henriette ne parut pas chez Madame Clémence. L'oncle Éloi passa dans la matinée chez la patronne et excusa sa nièce. Vers 6 heures du soir seulement, quand la nuit commença de tomber, la jeune fille sortit. Sans le savoir, elle avait fait comme Marie. Elle avait enlevé les deux roses qui fleurissaient son chapeau. Au lieu de s'engager sur les quais et de couper à travers les quartiers du commerce et de la mode, elle remonta la rue de l'Ermitage et par un long détour gagna la rue Saint-Similien. Depuis que l'oncle Éloi avait parlé, elle n'avait plus qu'un désir, revoir Marie. En chemin, elle répétait, remuant à peine les lèvres sous sa voilette, « Marie, Marie, toi qui devais tout connaître et qui n'as pas parlé, je me suis cru au-dessus de toi, et tu m'as fait la plus grande aumône, tu n'as rien dit. Marie, quel mérite encore et quelle amitié dans ta honte. Ah, pauvre fille, comme nous pouvons bien mêler nos larmes à présent. » Elle entra sous le porche, dans l'encadrement duquel, entre deux murs de la cité ouvrière, on apercevait la cathédrale et les maisons qui l'enveloppent, bleues de la brume des lointains. Puis, elle pénétra dans le corridor de gauche et frappa une fois, deux fois. Personne ne vint. À la troisième fois, une femme cria du palier au-dessus, « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Mademoiselle Marie Schwartz, est-ce qu'elle est sortie ?» La voisine, comme beaucoup de femmes du peuple qui n'aiment point répondre au visage qu'elle ne voit pas, descendit l'escalier, la tête débordant la rampe. C'était une femme d'ouvrier, jeune encore, fanée, avec des restes de roses dans un teint plombé et des cheveux mal noués, couleur de chanvre. En apercevant cette jeune fille bien mise, elle devina une camarade de Marie Schwartz et dit « Vous ne savez donc pas qu'elle n'est plus ici, mademoiselle ? Depuis quand ? Mais 15 jours déjà. On a fait la vente chez elle, vous pouvez voir. » Elle tira une clé de son tablier, ouvrit la porte, et sans entrer, d'un coup d'œil, Henriette aperçut la chambre aussi nue que le jour où Marie l'avait louée. Les rideaux, la table, le miroir, les deux aquarelles prêtées, tout ce qui rappelait leur amitié, ou simplement tout ce qui rappelait Marie, n'était plus là. La chambre offrait son lit de fer, ses deux chaises et ses murs blancs à l'hôte de passage qui pouvait venir. La femme, reconnaissant à la rougeur d'Henriette que la jeune fille était plus qu'une camarade ordinaire et qu'une indifférente, dit « Voilà, elle avait bien du mal à gagner sa vie. Elle se jetait à tout pour savoir de quoi acheter son pain et payer son loyer. Elle faisait des chemises, des blouses, du tricot, et on voyait qu'elle avait l'habitude. Elle ne sortait guère. Quelquefois, je suis entré chez elle cet hiver, et elle mettait ses mains au-dessus de sa chandelle, comme ça, pour se chauffer. Moi, je lui disais, « Faut tout de même que celui que vous avez pris avec lui soit bien canaille, pour ne pas vous envoyer de quoi vous chauffer. » Mais elle ne disait jamais rien de lui. Il paraît que c'était un soldat, un simple soldat, mademoiselle, et encore un mauvais, car ils l'ont condamné ces jours. « Oui, oui, je sais. Qu'est-elle devenue ?»« Ah, vous saviez ?»« Vous dire ce qu'elle est devenue ?» La femme s'arrêta pour donner le tour de clé et fermer la chambre. Je n'aime pas inventer des histoires. Je peux dire seulement qu'elle n'avait plus guère la force de travailler depuis 2 mois. Le chagrin qu'elle se faisait, n'est-ce pas? Et puis la mauvaise nourriture, et puis la toux qu'elle avait, luminait le sang. Elle n'a pas payé son terme, et alors, bonsoir. Ça a été vite liquidé, son bibelot. Voilà 15 jours, comme je vous l'ai dit. Mais elle, madame, Marie Schwartz. Dame, ma belle, je ne l'ai plus revue. Les voisines l'ont rencontrée. Elle a dû loger à la nuit comme d'autres. Et puis hier, quelqu'un m'a dit qu'elle était partie pour Paris, d'où elle venait. Voyez-vous ça, des misères pareilles. Elle remontait l'escalier, traînant ses savates qui claquaient sur le bois avant que le pied s'y posât. Sans doute elle craignait d'en avoir trop dit, ou bien un regret lui vint de cette locataire de hasard. Elle ajouta, en haut du palier, « Ça n'était pas méchant, vous savez. Seulement ça aimait le plaisir, c'était jeune, c'était fou. » Ça n'avait pas de mère. Du petit cahier gris. Maintenant, je suis à vous. Pauvre du monde. Je n'ai plus rien qui me retienne. Je me sens délié d'avec tout. Ma seule fierté, qui était d'être une fille d'honnête race, je n'ai pas le droit de la garder. Je ne puis plus penser avec douceur même à mon passé d'enfant. J'ai dit adieu à mon Étienne avant d'avoir connu ces choses. À présent, Je vois bien que je ne devais pas être à lui. Quelle femme il aurait eu, celui qui parlait d'oublier mon frère, et à qui il aurait fallu oublier aussi ma mère pour m'aimer. Va, mon ami, ta place est à jamais dans mon cœur. Celle que tu choisiras sera heureuse. Mais moins que moi. Je ne puis comprendre que la joie sorte de pareils déchirements, et pourtant, je me sens l'âme toute légère et délivrée de moi-même. Je me plais dans la pensée que ma famille va se refaire. Je vais vers vous, les souffrants, les inquiets, les honteux. L'ordre où j'entrerai et que j'ai choisi sera le plus petit de tous. Je serai servante des pauvres. J'irai soigner ceux qui ne peuvent pas payer la charité. Je ferai le ménage quand la ménagère sera malade. Je débarbouillerai les enfants qui vont à l'école. Je taillerai le pain de la soupe. Je raccommoderai les vêtements usés. Peut-être je garnirai encore des chapeaux et des bonnets de pauvres. Ils me reconnaîtront bien sûr pour une des leurs, parce que j'ai gagné ma vie difficilement, parce que j'ai eu des amis qui m'ont trahi, une famille divisée, des tentations comme ils en ont, et que je suis la sœur d'un condamné, la fille d'une faute. Je serai leur sœur complètement. Ce sera bientôt, dans quelques semaines. J'ai promis à mon oncle d'attendre un peu, afin qu'il s'habitue à l'idée de notre séparation, ce que je ne peux guère croire. Je le ferai aussi pour Madame Clémence, qui devra me remplacer. Il m'est pénible de rentrer à l'atelier, mais j'ai cédé à cause de l'oncle Madiot, pour ne pas commencer par une dureté, une vie qui doit être d'amour. Le lendemain matin, Henriette retourna au travail. Elle fut surprise de constater qu'un événement qu'il avait si rudement éprouvé, la condamnation d'Antoine, avait peu impressionné ses compagnes d'atelier. Dans le monde des humbles, les arrêts de la justice ont un médiocre retentissement. Celles qui aimaient Henriette lui demandèrent « Est-ce vrai ?» et la plaignirent. Les autres avaient presque toutes, dans leur famille ou dans leur vie, des tares plus graves, et elles se turent. La saison était d'ailleurs la plus active de l'année, on parla vite d'autre chose. Les semaines s'écoulèrent uniformes. Henriette allait plus souvent voir le vieux prêtre qui demeurait à l'ombre de l'église Sainte-Anne. Le soleil revenait, les jours s'allongeaient, et le printemps souleva la terre avec la pointe des épis nouveaux.